Et nous voici à notre dernier intervenant de ce matin, Maxime Catellier, avant de passer à une période de questions. Alors, Maxime Catellier est poète. Il a été chef de pupitre à la section des arts d'un hebdomadaire qui s'appelle Ici. Mais il est l'auteur de quatre recueils de poèmes, Saint-Rouge, en hommage à Louis Geoffroy, alors, un poète québécois qui avait beaucoup de liens avec le surréalisme et le jazz. Après le déluge, publié chez Poète de Brousse, Préhistoire du monde chez Marchand de feuilles, et le plus récent, Blanc de neige, chez Loi de Cravant, Banc de neige, en 2008 à Loi de Cravant. Maxime Catellier prépare actuellement un essai sur André Breton intitulé « Effet de neige ». Donc, je laisse la parole à notre dernier intervenant.
Bon. J'espère qu'on savait un peu à quoi s'en tenir en m'invitant ici. Sinon, ben, vous allez être peut-être un peu surpris. Donc, je n'ai pas un rapport savant avec le surréalisme. J'ai toujours eu un rapport passionnel. Donc, puis ces dernières années, ça s'est affirmé encore un peu plus parce que j'ai été amené à rencontrer Jean Benoit, qui est un artiste québécois. Je dirais d'ailleurs, à la suite d'Annie Lebrun, que Jean Benoit n'est pas nécessairement un artiste, mais plus un exhibitionniste. C'est quelqu'un, donc je crois qu'en décembre prochain, on fête le 50e de son exécution du testament du Marquis de Sade, donc qui est probablement la première performance enregistrée dans le monde de l'art et qui s'est produite dans l'appartement de Joyce Mansour le 2 décembre 59. Donc Jean Benoît, j'ai été amené à le rencontrer parce que le surréalisme a toujours été un mouvement qui s'est créé au fil des rencontres, de l'amour, mais aussi de l'amitié. J'ai voulu, pour mon livre « Après le déluge », publié chez Poète de Brousse, emprunter, mettre sur la couverture une œuvre de Mimi Parent, qui était sa femme, donc une autre artiste qui était dans le groupe surréaliste, qui venait de Villemont-Royal, si je ne m'abuse. J'ai dû envoyer mon manuscrit à Paris à l'intention de Mimi Parent. J'ai posté le manuscrit, je l'ai envoyé par bateau parce que c'est beaucoup moins cher. J'ai posté ce manuscrit-là le 14 juin 2005, donc date de la mort de Mimi Parent, ce qui n'était pas vraiment d'adon. Un petit contretemps. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais envoyé ça à l'intention d'Annie Lebrun, avec qui j'étais déjà en contact, la sachant amie avec Mimi. J'ai appelé pour m'excuser de cet envoi-là d'avance. En septembre d'après, j'ai reçu un coup de fil de Jean Benoît qui m'appelait comme si on se parlait tous les jours. Il me dit « Jean, c'est Maxime! Maxime, c'est Jean, en tout cas. » Puis finalement, on s'est rencontrés. Il m'a laissé les droits pour utiliser l'œuvre qui s'appelle « Adieu, vieux monde » de Mimi Parent. Et depuis ce temps-là, on se voit pratiquement tous les ans quand je vais à Paris. Et lui, quand il était assez en forme pour venir à Montréal. Mais malheureusement, Jean-Benoît, il a quand même 86 ans aujourd'hui. Il habite un immeuble au 5e étage sans ascenseur dans le 20e arrondissement de Paris. Et il s'est brisé un peu le dos en déboulant les marches, donc il y a 2 ans. Alors, on risque peut-être pas de le revoir à Montréal de son vivant. Tout ça pour dire que c'est ces rencontres-là qui m'ont amené à entretenir un lien plutôt passionnel que savant avec le surréalisme et d'ailleurs à abandonner le mémoire que je voulais consacrer à Breton à l'Université de Montréal. Je crois que j'ai bien fait. Je crois que... vous allez voir avec le texte que je vais vous lire, c'est pas très long, tout le monde va pouvoir aller dîner après. J'espère que vous allez avoir encore faim, par contre. J'ai appelé cette communication-là, il fallait donner un titre que j'ai donné hier, « La survivance du signe à la chose signifiée ». C'est un peu ce qui s'est produit dans le cas du surréalisme. Et Breton l'appréhendait dès 1935, où il avait prononcé il avait évoqué la survivance du signe à la chose signifiée pour la première fois dans une conférence à Prague. C'est un peu ça qui s'est produit. Et donc, voici cette intervention que j'ai préparée pour vous cette semaine. Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir. Quand j'entends cet appel d'air venu du manifeste de 1924, je ne peux m'empêcher de regretter qu'aujourd'hui, comme hier, il s'en trouve très peu pour y répondre d'un retentissant silence, vu les moyens déployés par les éminences grises de la littérature pour exercer une attirance toujours plus médiocre chez les jeunes esprits. Quel dommage quand même que ce colloque n'ait pas eu lieu ailleurs en d'autres temps pour que de véritables révoltés assènent leurs vaillants coups de pied au cul des idéologues mous dont notre époque semble si prodigue. Déjà, votre marché francophone de la poésie, laissez-moi vous dire que les surréalistes n'y auraient jamais mis les pieds sinon pour y foutre le feu. Tout comme ils répugnaient à la réussite personnelle, aux honneurs patriotiques, à la chienne de famille comme à son curé tout juste bon à battre la mesure du mensonge quand il est temps d'oublier que l'on vit, les surréalistes détestaient la littérature dans tout ce qu'elle a de plus bête, à commencer par les esthètes labiles et habiles du genre Cocteau. Nous voici donc réunis pour discuter de ces héritages. Terme on ne peut plus mal choisi pour évoquer un mouvement qui aura passé comme une aigrette de vent au temple du siècle, sans jamais faire mentir son désir le plus cher, repenser tout l'homme. Ainsi, nous fera-t-on avaler les couleuvres habituelles, le surréalisme en tant que groupe artistique d'avant-garde qui a influencé tout un chacun, en évacuant sciemment ce que la raison d'être de cet arraisonnement au rêve devait avant tout à la révolte contre la misère dans laquelle la pensée rationnelle tenait cette seconde vie, telle qu'évoquée par Gérard de Nerval dans son poème ultime Aurélia. Pire encore, tout ce qui relève du moindre écart par rapport à la soutane littéraire québécoise sera automatiquement épinglé du titre en macaron fort prisé de surréaliste machin chose. Autrement dit, tout le monde applaudira bien fort et s'en sera fait du surréalisme jusqu'à la prochaine fois. Je leur dis merde. Qu'ils aillent se faire mettre une grosse anatomie au théâtre des variétés, comme disait le poète-boxeur Arthur Cravan. C'est une chose d'ignorer tout d'un mouvement de ses implications, des gens qui lui ont donné corps à des flammes vives dont ils ont illuminé la nuit humaine, mais de l'étaler sur la place publique, ça devient gênant. Les poètes de salon, les héritiers patentés, les critiques de service, tout se passe comme si une banque surréaliste nous ouvrait son inépuisable coffre au trésor, alors que son cristal noir et coupant comme l'éclair effraie toujours autant les esprits chagrins qui ne voient en lui qu'un héritage à piller. Or, le considérer comme une fabrique d'artistes et d'écrivains talentueux est tout aussi fallacieux que d'offrir 24 $ aux Amérindiens pour acheter l'île de Manhattan. L'occultation profonde qu'André Breton réclamait dès le second manifeste en 1930 aura ainsi permis d'éviter une telle escroquerie, mais n'aura pas empêché le zèle des arpenteurs qui continuent aujourd'hui à étendre leurs instruments de calcul sur un domaine qui ne peut s'embrasser qu'à l'aide d'un œil rendu à son état sauvage. Jamais en reste, les journalistes ont appris à utiliser le terme surréaliste pour décrire aussi bien un viol collectif qu'une acrobatie périlleuse. Il ne se passe pas une seule journée sans que le surréalisme ne s'empare d'un fait cocasse, d'une énormité absurde. Et sur le chemin pontifical de cette euphorie éphémère, l'ignorance l'emporte même au fond des universités. Il ne viendrait jamais à l'idée de ces plumitifs de sous-sol arabais d'évoquer la révolte surréaliste pour une injustice aussi grave que celle qui préside actuellement à l'enquête du coroner concernant la mort de Freddy Villanueva, ce jeune homme abattu par la police dans un parc de Montréal-Nord le 9 août 2008. Tout comme Violette Nozière, cette jeune fille abusée par son père qui s'est rendue justice elle-même et à la défense de laquelle se sont portés André Breton et ses amis, les surréalistes ne se seraient pas fait prier pour défendre la mémoire de ce jeune homme qui, pour avoir porté sa main à la gorge d'un flic, a été froidement abattu comme un chien dans un terrain vague. Comme il semble lointain le temps où les surréalistes avaient raison. Le spectacle a nivelé dans son sillage les terrains accidentés où ces hommes et ces femmes cheminaient, et l'on s'accommode aujourd'hui de ce que Breton appelait si justement la survivance du signe à la chose signifiée. C'est la conclusion à laquelle je dois m'en tenir en considérant le sort qui lui est fait. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout cela est inutile. Ce serait trop accorder de crédit à quelque chose de franchement néfaste. Le surréalisme est une idée neuve dans un vieux monde paralysé par ce trop de réalité contre lequel Annie Lebrun nous a mis en garde il y a quelques années. Le rêve surréaliste tient la queue de l'oiseau qui prend son vol en espérant partir avec lui au dehors, où l'histoire tombe comme la neige. Comme le dit si bien mon ami Jean-Benoît, que je tiens pour l'un des hommes les plus libres qui ait jamais existé, il faut penser de bas en haut et non de haut en bas. Une autre façon de dire « je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir ». Tant qu'il reviendra au littérateur de s'accaparer des héritages du surréalisme, la confusion ira en augmentant. Alors, si j'ai accepté de venir vous parler aujourd'hui de surréalisme, c'est pour éviter que cette confusion se généralise. Je ne mange pas de ce pain-là, comme le disait si bien l'ami Benjamin Perret, qui est allé jusqu'à inscrire cet avertissement définitif sur sa tombe. À quelques pas de là, une seule étoile s'élève sur une modeste table de granit où des voyageurs viennent parfois écluser une bouteille de champagne. « Je cherche l'or du temps », nous dit André Breton. Et ce métal rare, c'est à la poésie de lui rendre son éclat dans tout ce qu'elle a de moins littéraire et de plus émouvant. Alors voilà.
Alors, merci à Maxime Catellier, qui nous a donné un exemple d'engagement live de cet « après le déluge » de nos conférences. Il a ajouté un ultime déferlement, nous rappelant peut-être la question, à mon sens, davantage de celle de l'engagement de l'écrivain par rapport au social, plutôt que l'engagement spécifique du surréalisme dans le social. Mais j'étais très touché par son intervention.